Bonsoir. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu hier mercredi l'arrêt sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution relatif à la fin du mandat du chef de l'État. Dans cet arrêt, la Cour estime que pour éviter un vide institutionnel et préserver la continuité de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Comment analyser cet arrêt? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Moïla Tchiembe, il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir, professeur. Professeur Moïla?
Oui, je suis là.
Merci, professeur. Et il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est le professeur Jacques Joly. Il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et à l'Université protestante du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La Cour constitutionnelle confirme le maintien en fonction de l'actuel chef de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dans un arrêt rendu hier mercredi, la Cour a déclaré que pour consacrer le principe de la continuité de l'État affirmé par l'article 69 de la Constitution, l'article 70 lui permet de rester en fonction. Les hauts juges viennent ainsi de répondre à la requête des députés nationaux de la majorité parlementaire introduite le 18 avril dernier en interprétation de quelques articles de la Constitution, notamment l'article 70, alinéa 2. On écoute Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, au micro de Jeff Ngoy.
La Cour, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, reçoit la requête, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État, affirmé par l'article 69 de la Constitution. L'article 70, alinéa 2 de la Constitution, permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dit en outre que, bien que d'une durée de 5 ans renouvelable, le mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux ne prend fin qu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée provinciale en vertu du même principe de continuité de l'État, également traduit par les alinéas 2 des articles 103 et 105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la Constitution. Dit par ailleurs que les articles 75 et 76 de la Constitution règle le cas de vacances de la présidence de la République intervenant en cours de mandat, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif du président de la République. Dit que la vacance de la présidence de la République nécessite l'intervention de la Cour constitutionnelle qui en fait la déclaration sur saisine du gouvernement.
Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Professeur, vous êtes constitutionnaliste. Comment vous analysez cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Merci beaucoup pour cette question. La première chose qu'il faut, c'est féliciter que désormais, les acteurs politiques, lorsqu'ils développent leur théorie, sentent la nécessité de consulter les institutions attitrées, notamment la Cour constitutionnelle. Donc, cet recours au droit, cette juridicisation, c'est déjà en soi une bonne chose qui nous fait sortir de la proche purement empirique ou de fait vers le droit. Ceci étant dit, en suivant les présidents de la Cour constitutionnelle, on sait d'abord, outre le fait qu'ils soulignent, et c'est très important, que l'article 70 ne prête pas lieu à confusion. Il n'y a pas obscurilibelli, il n'y a pas obscurité, Donc, en principe, il ne doit pas y avoir interprétation. Et je crois que si le président ou la Cour s'était arrêté à ce niveau, il n'y aurait pas de problème. Parce que, effectivement, c'est un article, si on fait l'interprétation stricte littérale, les choses sont claires. À la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, le président en exercice, en fonction, est là. Et l'article 73 nous dit que le mandat, avant la 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, il doit déjà y avoir eu un président élu. Donc, en combinant les articles 70 et 73, il ne devait pas y avoir de problème.
Mais à quel niveau se trouve alors le problème selon vous?
Le problème se trouve dans le chef de ceux qui ont saisi la cour pour obtenir un arrêt sur commande.
Comment ça?
Parce que, ayant pris l'option de ne pas organiser les élections, ayant créé artificiellement une crise pour permettre, n'est-ce pas, au président en exercice ou en fonction de continuer son mandat au-delà du contrat qu'il a conclu avec le peuple, il cherche maintenant un soubassement juridique en allant obtenir un arrêt de commodité auprès de la Cour. Et la Cour, en interprétant l'article 70, alors qu'il a dit que c'était elle a dit que cet article était clair, recourt à l'article 69 pour évoquer une pseudo-continuité des institutions, le fonctionnement, la continuité de l'État, qui n'a rien à voir avec cet article ici, article 70. Donc, c'est une interprétation orientée, sélective, qui, de toute façon, ne nous étonne pas, parce que dans la production juridictionnelle ou jurisprudentielle de cours constitutionnelles africaines, nous avons toujours eu en face de nous deux types d'arrêts. Des arrêts d'évitement où la Cour fait du pense-pilatisme en disant « je ne suis pas compétent » ou « la requête est irrécevable » ou alors la Cour fait de l'érode en tordant le droit et en donnant au droit l'interprétation que la majorité voudrait bien qu'elle puisse donner.
Alors, professeur, cet arrêt n'aurait-il pas le mérite de rappeler au respect strict de la Constitution?
Oui, respect strict de la Constitution par tous les acteurs, y compris la Cour constitutionnelle. Mon cher ami, lorsque vous prenez cette Constitution, je vous ai dit qu'il faut faire l'interprétation stricte littérale. Il faut qu'il y ait un président élu. Et si vous faites l'interprétation systémique, c'est-à-dire vous prenez l'article 70 avec d'autres dispositions de la Constitution.
Combiné.
Vous prenez 69, c'est très bien, mais prenez 73, prenez 75, prenez 220. Et on nous dit, à l'article 73 et surtout 75, comment les fonctions du président prennent fin. On vous dit en cas de décès, nous touchons du bois, nous n'avons pas besoin de décès du chef d'État chez nous. Démission, c'est un acte volontaire, ou toute autre cause d'empêchement définitif. C'est quoi un empêchement définitif? C'est toute circonstance de fait ou de droit empêchant temporairement ou définitivement le chef de l'État d'exercer ses fonctions. Donc, lorsqu'on arrive à la fin de son mandat et qu'on ne peut plus se représenter, mais on est dans une forme et dans un cas d'empêchement définitif. Alors, je disais, si vous prenez cette Constitution et vous analysez la ratio legis, ce qu'on appelle l'interprétation téléologique, on dit que depuis 1960, notre pays, n'est-ce pas,
subi des crises à cause de l'absence de légitimité. C'est depuis son indépendance, c'est l'alinéa premier de l'exposé des motifs. La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs.
Et donc, en d'autres termes, pour vous, professeur, avant que je ne donne la parole aux autres intervenants, l'arrêt a plutôt amplifié la confusion en amont.
Mais je crois, c'est-à-dire qu'ils ont évité d'aborder la question de fond, c'est posé à l'article 73,
merci,
c'est-à-dire de demander à la CENI d'organiser les élections. Parce que comment la Cour peut parler du vide alors que nous ne sommes pas encore,
merci,
à 90 jours à la fin du mandat.
Merci,
c'est
professeur,
un arrêt prématuré qui ne fait que créer la confusion,
merci,
et qui crée les conditions d'illégitimité, donc d'installation d'un pouvoir de fait,
merci,
ce qui est dangereux pour la Cour.
Merci. Professeur Bob Kabamba, quelle est votre analyse à vous? Le professeur Joly parle d'un arrêt de commodité, d'une interprétation orientée. Quelle est votre analyse à vous?
Oui, merci beaucoup pour la question. C'est que je voudrais quand même rappeler, hein, de manière claire, hein, les travaux parlementaires de l'écriture du texte, ainsi que pour donner un éclairage clair sur l'histoire de l'article 70 alinéa 2. C'est-à-dire qu'il faut bien un moment de travaux. Nous sommes en 2005. En 2005, le Congo vit des moments pas de stabilité, vit des moments où il y a toujours crainte d'avoir une nouvelle guerre à l'est du Congo, notamment où il y a des éléments qui prouvent, qui semblent attester que le Rwanda prépare une nouvelle guerre contre le Congo. Et dans un moment de travaux, plusieurs parlementaires étaient inquiets au moment des travaux de la constituante. Donc plusieurs parlementaires étaient inquiets par le fait que il se pourrait que lorsque l'on arrive à pouvoir avoir une situation compliquée, que l'on puisse justement avoir un président qui n'a pas l'effectivité de différents de son pouvoir pour pouvoir mener par exemple une guerre, pour mobiliser les troupes, mobiliser les ressources nécessaires, etc., etc., etc. Chose qui pourrait être limitée en cas par exemple de vacances, en cas de d'affaires courantes ou même d'affaires de prudence comme on dit dans d'autres constitutions. Et de ce fait, le constituant a insisté pour qu'il n'y ait pas lié à président qui reste en fonction. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la linéa 2, il y a deux adjectifs qui ont été clairement inscrits. Il s'agit donc de l'effectivité et de la fonction élue de président. Et pourquoi encore élu du président? C'est tout simplement parce qu'on craignait qu'on puisse y avoir un président qui ne soit pas élu et qui puisse revendiquer, par exemple, une présidence et d'exiger la passation du pouvoir sans qu'il puisse y avoir élection. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces deux qualificatifs qui concernent donc l'installation effective et ainsi que le président élu. Ça, c'est vraiment une chose, et la Cour constitutionnelle confirme cet état de fait. Mais maintenant, revenons-en à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que le problème n'est pas posé par ces articles. Ce n'est pas ça le problème des articles. On essaie d'utiliser la Constitution et ses différents articles pour le faire dire ce qu'il ne dit pas. Aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition, on veut utiliser toute une série d'arguments pour aller dans un sens, pour nous dans un autre, dans un objectif que finalement nous avons déjà très bien compris, du fait qu'il n'y aura pas d'élection en 2016. Et comme il n'y aura pas d'élection en 2016, qu'est-ce qui se passe? Comment le pays sera géré, etc., etc., etc. Je pense que c'est ça, en fait, la question fondamentale qui divise, en fait, la classe politique et sur laquelle les uns et les autres définissent des stratégies. Pour, bien sûr, la majorité, il est clair que s'il n'y a pas élection, ils veulent que le président reste au pouvoir sur base de disposition en fonction des interprétations et qui viennent de confirmer la Cour constitutionnelle. Pour l'opposition, il va de soi que le mandat, ils vont interpréter par rapport au mandat, par rapport à d'autres dispositions, etc., etc., pour dire que le mandat de 5 ans, etc. Et donc ça veut dire que le 20 décembre, le président n'est plus président. En fait, c'est ça, en fait, la question fondamentale qui se pose, c'est celle-là. Puisqu'il n'y a pas élection, est-ce que Kabila, le président Kabila reste au pouvoir ou pas. Et c'est ça qu'il y a, les différentes divergences et manifestement aussi les différentes interprétations que la Cour va dans un sens. Il faut aussi faire souligner que la Cour est allée quand même au-delà de ce que lui a demandé. Lorsque la Cour effectivement parle de la question du Sénat, de la question des assemblées provinciales, etc., il y a un fait que le Sénat, il est déjà dans un fait déjà acquis depuis plusieurs années. Le Sénat fonctionne, le Sénat légifère, le Sénat contrôle, le Sénat représente la population. Et donc, on est dans une espèce de continuité. Pour ma part, il n'était même pas nécessaire de pouvoir le dire, puisque même le professeur, le collègue Ndioli, qui est sénateur, il siège au Sénat depuis plusieurs années, professeur, et il continue à légiférer, etc. Oui.
Le professeur, est-ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a-t-il expressément dit que les élections n'auront pas lieu dans le délai constitutionnel?
Non, elle ne l'a pas dit, parce qu'elle ne lui a pas demandé de pouvoir le faire. Ça, c'est du pouvoir de la CENI, qui a l'obligation constitutionnelle de pouvoir organiser les élections telles dans les prescrits, je répète, dans les prescrits et de la Constitution et de la loi électorale et de différentes dispositions, d'autres dispositions qui existent, notamment sur la question sécuritaire, etc. Et donc, si la CENI n'est pas en mesure de pouvoir organiser les élections dans les délais, qu'on démontre que la CENI est dans une espèce de déni de ses obligations, ou bien que la CENI est en faute de ne pas pouvoir assumer ses missions et son rôle. Ça, c'est de manière claire que si on veut construire un état de droit, il y a des dispositions claires qui vont faire porter la responsabilité claire au niveau de la CENI par rapport à ces manquements liés à l'organisation des élections. Et si c'est le gouvernement qui a posé le problème du fait qu'ils n'ont pas donné le financement nécessaire, ce sera le gouvernement. Si c'est le Parlement qui n'a pas adopter les différents textes indispensables pour qu'il puisse y avoir des élections, ce sera le Parlement. Et donc, il y a tout ça, de mon point de vue, toute cette série de batteries sur lesquelles l'opposition peut pouvoir dire, si c'est ça le problème, de pouvoir dire qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'on doit aller aux élections, et que si on va aux élections sur base des textes actuels, le président Kabila ne doit pas se représenter, allons aux élections, et faisons en sorte que les conditions des élections soient de manière claire, définie, dans les dispositions qui sont définies par les textes.
Professeur, vous avez tout à l'heure dit que cette constitution, on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas, tant du côté de la majorité que de l'opposition. Plusieurs observateurs pensent que cet arrêt de la Cour pose plutôt des problèmes politiques que de problèmes de droit. Professeur, à cette étape, à quoi devrait s'en tenir la classe politique congolaise?
Vous savez, quand vous dites ça, le problème de droit, dès qu'on a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, effectivement, nous sommes dans une disposition juridique et qui consolide, puisque nous sommes dans l'interprétation de la Constitution. De manière claire, donc, la lecture qu'en fait la majorité, de manière claire, c'est, va dire, la Cour constitutionnelle va dans leur sens, dans le sens que le président de la République reste en fonction jusqu'aux prochaines élections qui seront organisées. On ne sait pas quand ces élections-là seront organisées. Et du côté de l'opposition, il va de soi que là, de manière très claire, que la Cour constitutionnelle a outrepassé, d'autant plus que l'opposition a aussi une autre lecture. La conséquence aussi, c'est que la Cour constitutionnelle, de ce fait, va être vue comme un instrument, comme une institution qui était inféodée à la majorité, au pouvoir.
Merci, professeur. Professeur Moïla Chiyembe, quelle est votre analyse à vous? Il y a beaucoup d'auditeurs, par exemple, qui pensent que la Cour constitutionnelle, à travers cet arrêt, n'a fait qu'amplifier la confusion.
Disons que l'interprétation de la Cour, comme mes collègues, le professeur Ndioli et Bob Kabamba viennent de le dire, l'interprétation de la Cour est pertinente au regard du droit positif, c'est-à-dire au sens du positivisme juridique. Mais cette interprétation a la faiblesse d'être restrictive, c'est-à-dire limitée. Je m'explique. Il est pertinent, comme mes deux collègues l'ont dit, pour la simple raison que la Cour a fait le constat que l'article 70 est tellement clair qu'il n'y a pas matière à interprétation. Elle aurait dû peut-être se limiter là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'on lui a demandé de faire une étude comparée de l'article 70 avec l'article 103, l'article 105, l'article 197, c'est-à-dire de comparer la situation de fin mandat à la fois du président de la République, du député national, du sénateur et du député provincial. Alors, la Cour a objectivement, simplement constaté que lorsqu'on regarde les dispositions précitées à la lumière de fin de mandat, il y a le principe de continuité de l'État, parce que à chaque fois, les députés qui ont été élus, je me souviens que sur votre plateau, nous avons expliqué plus d'une fois qu'un député, un sénateur qui a été élu, s'il n'y a pas d'élection, nul ne peut le contraindre à quitter son mandat au motif qu'il n'y a pas eu d'élection, dans la mesure où ce n'est pas le député, ce n'est pas le sénateur, ce n'est pas le gouverneur de province avant le démembrement qui a qualité d'organiser les élections. Donc, ces personnalités sont restées dans leurs fonctions. Les lois votées par le Sénat n'ont jamais été critiquées par personne, au motif que le Sénat n'a plus de mandat et renouvelé depuis les dernières élections. Donc, la Cour est restée constante sur ce point, au point que elle a renvoyé au calende grec, sinon mis entre parenthèses, l'article 75 et l'article 76, en limitant leur champ au motif que si éventuellement vacance il y a ou il y aurait, c'est dans l'hypothèse où le mandat présidentiel serait en cours. Or, le président de la République actuelle est fait mandat, en conséquence de quoi ce mandat étant terminé au sens constitutionnel au 30 décembre prochain, il n'y a pas lieu de parler de vacances parce qu'il n'est pas en train de faire courir son mandat aux conditions de décès, de démission ou de destitution, etc. Donc, jusque-là, on ne peut pas enfoncer une porte ouverte. La Cour n'a fait que dire le droit positivement, il n'y a rien à dire. Alors, là où le bas blesse, c'est l'aspect de la faiblesse ou de l'interprétation limitée et répressive. Pourquoi ? Parce qu'en prenant une approche restrictive de l'interprétation, la Cour laisse le pays au milieu du guet, pour la simple raison que la question qui est posée, qui est sous-jacente en réalité, de l'absence ou non des élections, ce n'est pas une question juridique ou constitutionnelle, c'est une question politique. Parce que les échéances sont énumérées, l'article 73 prévoit que les élections doivent être convoquées en ayant 60 ou 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice. Donc, sur le point de vue du droit, les choses sont claires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, dans la mesure où la Cour a fait cette restriction, cette interprétation restrictive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait une interprétation extensive. L'interprétation extensive permet à la Cour de tirer les conclusions de l'interprétation des articles qu'elle fait. C'est tout à fait logique que la Cour dise, mais le président de la République, au regard de la linéa 2 de l'article 70, doit demeurer en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président.
Professeur.
Mais compte tenu de la pratique électorale au Congo depuis 1960, il est rare que les élections se soient organisées dans les délais ou légaux ou constitutionnels. Alors, quelle peut être la conséquence demain s'il advenait que les élections ne puissent pas avoir lieu pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans? Quelles conséquences peut-on tirer? Le résultat serait que le président de la République, le président de la République qui a été aujourd'hui le premier à lever l'équivoque sur la crise de légitimité dont parlait mon collègue Dioli tout à l'heure, serait la première victime de pouvoir suivre un mandat d'intérimaire, de président intérimaire, en principe, qui ne peut pas prendre les décisions majeures sur l'avenir du pays pendant un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans.
Professeur.
Je pense que, ni dans l'esprit de personne, on peut souhaiter que le pays soit dans cet état, notamment au niveau de la présidence de la République.
Voilà, donc je rappelle aux auditeurs que cette émission est éminemment pédagogique. Professeur, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui voient en l'article 76 dans son alinéa premier qui dit la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement? Il y a certains auditeurs, certains observateurs
auditeurs qui voient là un piège. Est-ce que vous êtes en train de voir un gouvernement en train de se faire harakiri en déclarant la vacance auprès de la Cour constitutionnelle dans le contexte congolais?
Disons que la Cour fait le constat qui est constitutionnel, c'est-à-dire pour qu'il y ait vacances, si vacances il y a, décès, etc., il faut que le gouvernement saisisse la Cour. La Cour ne peut pas s'auto-saisir comme toutes les juridictions. Donc en conséquence de quoi, tout le monde voit bien que ce n'est pas le gouvernement de M. Matata demain qui peut aller saisir la Cour, à supposer que on se réveille le 4 matin avec la bienséance du patriotisme congolais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'y prend pas le chemin, parce que d'abord, le mandat du président de la République n'est pas encore achevé, nous ne sommes pas encore au-delà de délais constitutionnels où notamment la CI donc, doit organiser les élections.
Merci.
Là, je rappelais que cette interprétation est un peu prématurée. À supposer que demain la CENI dise qu'elle est capable d'organiser les élections présidentielles, cette interprétation serait désuète.
Merci, professeur. Professeur Jody, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Robert Baume de Bukavu, au sud de Kivu. Sur le plan des droits ou des principes, cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne pose aucun problème. Néanmoins, sur le plan politique ou pratique, il n'a pas du tout départagé la majorité et l'opposition, favorisant ainsi visiblement la majorité au détriment de l'opposition. Je pense que le dialogue national s'impose encore pour lever les équivoques politiques en RDC.
Professeur Joly, qu'est-ce que vous répondez face à cette intervention?
Oui, je crois que c'est cette ambiguïté qui a été soulignée par tous les éminents collègues, notamment par le professeur Tshiembe, où la Cour est... Malheureusement, c'est une pratique qui est courante depuis que la justice constitutionnelle existe dans notre pays. La Cour soit fait une interprétation stricte, positive, pour, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle l'évitement, en évitant, comme le mot l'est dit, le vrai question. Et ce que dit l'auditeur, il doit d'abord savoir que la justice constitutionnelle est une justice qui est très politique, qui est politique. C'est une justice qui doit régler le conflit entre institutions politiques ou d'interprétation des dispositions constitutionnelles qui sont des dispositions qui gèrent les institutions politiques. Donc, la question essentielle dans laquelle nous devons, ou la Cour devait se prononcer, c'est la question des élections. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'interprétation de la Cour est une interprétation qui est plus ou moins sélective dans ses dispositions. La Cour s'est référée pour interpréter l'article 70 dans une vue systémique à l'article 69. Mais l'article le plus proche, c'est l'article 73. Pour dire que, oui, le mandat du président de la République va prendre fin, et que les constituants, dans son intelligence, avaient réglé la question en demandant ce que les scrutins pour l'élection du président soient convoqués 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est justement pour prévenir cette situation. Et on a parlé de responsabilité. Depuis 2013, il y a une volonté manifeste de ne pas organiser les élections pour créer les conditions d'aller dans ce qu'on appelle les glissements. C'est là où le jeu constitutionnel n'est plus un jeu vertueux, c'est devient une délinquance constitutionnelle et il serait malsain qu'on puisse faire une ou donner une prime à, n'est-ce pas, à la violation. Je voudrais terminer en disant que si vous prenez notre constitution, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Le scrutin pour le président de la République a un calendrier constitutionnalisé, c'est-à-dire 90 jours avant l'expiration, il faut organiser l'élection. 10 jours après la proclamation, il faut installer le nouveau président.
C'est pour justement éviter ce que nous avons déploré avec le professeur Tiembe, que l'interrègne ou les systèmes de bouchons aillent au-delà. Et à ce moment-là, le pouvoir n'a plus d'assise. Et même si le président, je vais donner notre disposition, où le président peut dissoudre le Parlement, on donne à l'exécutif ou à la CENI 60 jours pour organiser les nouvelles élections. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les élections aillent au-delà d'un certain délai.
Et donc il y a des délais qu'il faut tenir.
Des délais qu'il faut tenir. Voilà. Et en droit, les délais sont impératifs.
Merci, professeur.
Sont impératifs en ce qui concerne le mandat.
Merci, professeur. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette intervention qui nous vient de Kananga.
Djibelaï Norbert à Kananga au Kasaï central. Juridiquement parlant, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est un très bon arrêt, car d'une part, il reprend textuellement ce que l'alinéa 2 de l'article 70 dit. Et d'autre part, adviendra-t-il au moment où les élections ne seront pas organisées à bonne date? L'article 75 de la même constitution a tranché. Il est important de faire une nette différence entre la légitimité et la légalité. Le cas du président du Sénat est qu'il peut avoir perdu la légitimité, mais il conserve la légalité qui nous intéresse en droit. Car le président de la République tombera dans le cas d'empêchement définitif au moment où les élections ne seront pas organisées cette année. Cela nous laisse dans une confusion qui ne dit pas son nom. Avant l'arrêt est égal après l'arrêt.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, bah vraiment l'auditeur, je pense, voudrait quand même qu'il puisse avoir un cours cumulé aussi bien de politologie que de droit public cumulé entre la question liée entre la légitimité et la légalité. On ouvrirait vraiment des thèses de doctorat sur ces deux aspects liés au fait à ces deux concepts et qui des fois sont complémentaires et des fois aussi peuvent être concurrents. Légitimité, bien sûr, il y a toujours une série de débats théoriques sur la question de la légitimité. Qui est légitime et qui ne l'est pas? Est-ce que celui qui est légitime, c'est celui qui est populaire? Est-ce que celui qui est légitime, c'est celui qui a l'acceptation des institutions? Est-ce que c'est celui qui est légitime, c'est celui qui assume un mandat, etc., etc. Et bêtement, la question de la légitimité, actuellement, par exemple, en France, il y a le débat sur la question de la légitimité de François Hollande, qui est dans le sondage le plus mauvais, cité comme le plus mauvais de tous les présidents français, et qu'on dit qu'il n'est pas du tout légitime du fait qu'il n'est pas aimé par sa population. Mais lui, par ailleurs, il est quand même le président de la République, en étant président de la République, donc il est un président légal. Donc il y a tous ces débats qu'il y a, et que je ne vais pas m'étaler là-dessus, pour ne pas donner plus de confusion au niveau des auditeurs. Néanmoins, je voudrais souligner une question qui a été dite par l'auditeur, liée justement à la question de délai et à la question du fait que l'on sait que les élections n'auront pas lieu cette année. De manière très claire, aussi par rapport à d'autres intervenants et à d'autres auditeurs, effectivement, il y a des délais qui sont dans la Constitution. Il y a plusieurs délais qui sont dans la Constitution. Et depuis toujours, notre collègue TMB et même Jolie l'avait déjà dit, c'est que les élections ne sont pas toujours organisés dans les délais tels qu'ils sont prescrits par les textes. Les élections de 2011 n'ont pas respecté la Constitution, les élections de 2006 n'ont pas respecté la Constitution, n'ont pas respecté les délais tels qu'ils étaient établis par la Constitution des transitions, mais ça n'a pas empêché que les élections puissent avoir lieu. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que quand on parle de délai, effectivement, il y a ce qu'on appelle le délai d'ordre et le délai de rigueur. Et par rapport au délai de rigueur, effectivement, on demande à ce que ça soit fait. Mais si ce n'est pas fait, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça ne veut pas dire qu'il y a production de droits, parce que ce n'est pas fait, non. De manière très claire, c'est que lorsque les élections ne sont pas réalisées dans le délai, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'illégalité ou l'inconstitutionnalité, non. Il est impératif que les élections doivent avoir lieu. C'est pour ça aussi qu'on n'insiste pas de manière très clair que l'on a mis dans la Constitution ces différents délais pour obliger la CENI à pouvoir tout faire pour organiser ces élections, que ces élections doivent avoir lieu. Et même dans le préambule de la Constitution, il est clairement dit qu'on parle de l'alternance politique. L'alternance politique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait régulièrement des élections qui soient organisées. Alors, c'est une question de délai, oui. Les questions de délai sont très importantes pour pouvoir faire la différence et qu'on puisse bien comprendre. L'obligation d'avoir des élections, oui. Dans les délais, il se pourrait qu'on ne respecte pas les délais tels qu'ils sont prescrits par la Constitution. Ça ne veut pas dire que les élections qui ne respectent pas la Constitution ne sont pas légitimes. Voilà ce que je voulais dire.
Professeur, il y a Ebia Mobezekuma de Gemena dans le sud Lubangi qui dit « Je me pose la question si intentionnellement un président décide de ne plus organiser les élections pendant 5 ou 10 ans, est-ce ainsi que s'interpréterait à l'article 70 si seulement le président actuel allait au-delà du mandat prévu, ce serait une jurisprudence pour ses successeurs, c'est un recul démocratique ?»
Tout à fait, bonne question. Et je pense que l'auditeur a tout à fait raison, a bien compris effectivement l'esprit de la Constitution. Par ailleurs aussi, je voudrais souligner, pour donner des arguments par rapport à ce que l'auditeur a dit, lorsque vous lisez effectivement la résolution, la dernière résolution, donc la 2277 du Conseil de sécurité, cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de manière très claire, sans ambiguïté, que le gouvernement congolais est responsable du retard pris dans l'organisation des élections, notamment sur la question liée à la réhabilitation du fichier électoral. Et sur la question du financement des élections. Il est clairement dit dans la résolution qu'il incombe vraiment au gouvernement qui apporte la responsabilité à ce niveau-là. Donc ici, de manière claire, donc la question liée à la même organisation, je pense qu'il faut saisir la Cour constitutionnelle en donnant des arguments clairs qui prouvent que le gouvernement, les différentes autorités n'ont pas organisé les élections dans le délai, dans un autre objectif. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans le cadre de l'organisation des élections, mais nous sommes maintenant dans autre chose.
Merci, professeur. Professeur Moïla, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Kevin Ikoka depuis Mbandaka. Ça m'étonne que tout le monde puisse se contenter seulement à accuser les régimes en place de rage. Qu'on soit pour ou contre le pouvoir en place, le problème qui se pose est d'ordre juridique et politique. L'article 73 que tout le monde évoque à tort ne concerne pas le chef de l'État plutôt que la CENI. La Cour a tranché une matière très claire qui ne pouvait même pas faire objet à interprétation. Nous n'avons qu'à nous incliner devant l'arrêt de la Cour qui jusque-là fait son travail en vertu du principe de la séparation du pouvoir et des compétences lui reconnues par les textes du pays.
Professeur Moïla.
Mais je pense que notre compatriote de Mbandaka a raison dans la mesure où la Cour a reconnu que l'article 70 alinéa 2 ne mérite pas interprétation parce que cet alinéa est très clair. Donc personne ne peut accuser la Cour. La Cour n'a fait que constater quelque chose de clair qui ne demande pas l'interprétation. Mais seulement la question qui se pose est que cette interprétation ou cette absence d'interprétation, parce que l'article est clair, puisqu'il est lié à l'absence des élections ou non. Alors c'est là où il y a un hic, parce que si les élections n'ont pas lieu, et dans la mesure où il faut appliquer cet alinéa 2, l'inconnu, c'est cette question sempiternelle, quand est-ce que les élections auront lieu? Le président de la République sortant, qui serait, dans cette hypothèse, le président intérimaire. L'intérim peut aller jusqu'à quand? Si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qui se passerait-il alors? Est-ce qu'il peut gouverner avec son gouvernement? Est-ce qu'il peut prendre les décisions importantes pour le pays? Est-ce qu'il n'est que président intérimaire en attendant l'élection du président successeur? Ce sont là des questions qui dépassent le droit, qui sont des questions éminemment politiques.
Professeur.
Or, le fait pour la Cour ne les avoir pas abordés par l'interprétation restrictive laisse le pays au milieu du gué.
Professeur, il y a l'auditeur Robert Baumé dans son intervention, professeur Joly, qui disait qu'il pensait que pour lui, le dialogue national s'impose pour lever les équivoques politiques en RDC. Par contre, il y a Santos Ngoloma de Kinshasa qui dit la décision de la Cour vide l'objet du dialogue. Quel est votre avis? Quelle est la voie des sorties en ce moment?
Disons que le dialogue peut être éventuellement une porte de sortie, comme la question de l'absence ou non des élections peut être une question politique. Mais à présent, c'est d'abord une question juridique, parce qu'il y a des délais constitutionnels qu'il faut respecter. La CENI a expliqué, à tort ou à raison, qu'elle voudrait organiser les 8 ou 9 élections du calendrier depuis 2006, qui n'ont pas été organisées. Mais l'année est qu'on n'a ni les moyens, ni le temps. Or, sur la question des moyens de temps, la responsabilité du gouvernement est pleine entière, parce que le gouvernement n'a pas donné à la CENI les moyens logistiques et financiers qu'il fallait. La responsabilité également du Parlement. Le Parlement n'a pas donné à la CENI, si on entend le président de la CENI, les lois nécessaires. Or, jusqu'à présent, quand on parle du président de la République, mais le président de la République n'est pas l'institution chargée d'organiser les élections. Le président de la République n'est pas responsable du gouvernement. Le système politique congolais, pour des raisons pédagogiques, est constitué de telle manière que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Or, le Parlement lui-même a privé la CENI des moyens légaux, c'est-à-dire les lois, pour faire les élections. Donc, cette irresponsabilité, les manquements graves du gouvernement, les manquements graves du Parlement, ne sont pas imputables au chef de l'État. Donc, par conséquent, dans la confusion générale, on aurait pu demander les comptes au gouvernement. Le gouvernement a quand même un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Le Parlement contrôle l'activité du gouvernement et peut même le sanctionner. Or, le gouvernement lui-même
merci,
a fait
attention.
Le Parlement a fait attention des lois. Donc, merci. On est là dans... Savez-vous qu'à l'issue de cette année, si par malheur il n'y a pas d'élection, il n'y aura aucune institution qui aura été légitimement renouvelée dans ses fonctions parce que toutes les institutions seront sans mandat.
Merci professeur. Professeur Joly, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Il faut déjà conclure. Quelle est la voie de sortie pour vous? Il y a des auditeurs qui pensent que le dialogue pourrait être une solution.
Mon cher ami, je crois qu'avant d'aller au dialogue, il faut d'abord prendre les documents juridiques, la charte fondamentale et fondatrice qui fixe le règle de jeu d'accession de dévolution de pouvoir. Le vrai problème, c'est depuis 2013, la CENI et le gouvernement, parce qu'on parle du Parlement, c'est vrai que le jeu traditionnel, c'est le rapport entre l'exécutif et le législatif. Mais ces jeux, je parle à des politistes, savent que ces jeux a évolué pour devenir un rapport majorité-opposition. C'est le gouvernement qui est majoritaire et qui a son parlement où il a la majorité et qui contrôle la majorité des membres de la CENI qui, depuis 2013, je dis bien 2013, s'amuse à ne pas présenter un calendrier cohérent.
Et là, professeur, quelle est la solution de l'émission sociale?
La solution, c'est que la CENI présente le calendrier conforme à la Constitution. Et que s'il y a de problèmes, que la CENI, dans toute son indépendance et défense du diable, convoque le partenaire politique pour discuter. La CENI n'a rien à voir à dire que voilà, moi j'attends le dialogue, de poser les problèmes de loi. Il n'y a pas de problème de loi. La CENI est venue avec des lois sur la répartition des sièges. Elle a obtenu. Merci. La CENI a publié un calendrier pour organiser les élections législatives. Avec même les gens qui ont payé le quotient, la CENI n'organise pas organiser les élections.
Merci,
et la CENI vous dit, je n'organise pas les élections parce que le gouvernement ne me donne pas les moyens et je n'ai pas les go du gouvernement pour les
merci.
Faire. Donc il s'agit d'un crime de responsabilité et ces responsabilités sont connues.
Merci professeur. Professeur Bob Kabamba, comment vous entrevoyez la suite du processus politique et du processus électoral? Le professeur Joly pense que la balle est dans le camp de la CENI.
Il n'y a pas que la CENI dans la résolution du problème. Il y a aussi le gouvernement, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a le Parlement qui doivent aussi intervenir dans ce cadre-là. De manière claire, c'est-à-dire que la CENI n'est pas en mesure d'organiser les élections en 2015. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faudrait qu'il y ait politiquement un consensus pour se mettre simplement d'accord sur un calendrier qui satisfasse tout le monde avec les différentes responsabilités, le fichier, l'argent, ainsi que la mise en route de tout le processus et d'avoir un calendrier qui soit crédible. En ayant ce consensus par rapport à un calendrier qui soit crédible, à ce point de vue-là, nous allons avoir la réponse liée au délai de rigueur, je répète, les délais de rigueur par rapport à la convocation de 90 jours, et là, ne poseront pas de problème.
Merci, professeur. Professeur Moïla, conclusion.
Ben, on est devant une difficulté parce qu'il y a le manquement du gouvernement qui ne donne pas les moyens à la CENI, les manquements du Parlement qui ne donne pas les droits, les manquements de la CENI qui est dans l'incapacité d'organiser les élections. Ben, le pays est totalement bloqué et il faut prier le ciel que les Congolais s'entendent dans la sagesse pour pouvoir régler ce problème.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle du Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Kevin Kouté, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Merci de votre attention. Au revoir.